Utilisez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En prenant connaissance de la quantité et de la gravité potentielle des atteintes associées à la drépanocytose, on comprend l'importance du dépistage précoce de cette maladie génétique. Affection de l'hémoglobine des globules rouges, la drépanocytose peut entraîner de multiples symptômes, anémie, douleurs intenses, obstruction des vaisseaux, atteinte osseuse ou difficultés respiratoires, des complications souvent invalidantes. Et dans les régions où l'accès aux soins est limité, la maladie fait courir de véritables risques, notamment aux plus jeunes. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue sur la planète, une affection entourée d'un certain nombre de préjugés, d'idées fausses sur les populations touchées, sur la transmission. Les patients peuvent faire également l'objet de certaines croyances mystiques. Comprendre, diagnostiquer, soulager, protéger et en cas de crise, traiter. La prise en charge de la drépanocytose implique un suivi régulier pour limiter ces crises et en cas de poussée, des interventions et des soins ciblés pour le patient ou son entourage, des conseils aussi pour la vie, pour le quotidien, hydratation, repos, environnement, faire passer les informations essentielles, y compris sur les réseaux sociaux, pour apprendre à vivre avec la drépanocytose. Dépistage, sensibilisation, transmission, prise en charge. Avec nous en studio, docteur Hassan Yakaté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du centre d'information et de dépistage de la drépanocytose, également médecin au centre de la drépanocytose pédiatrique de l'hôpital Trousseau à Paris. Conseil de base, accès aux soins. Nous serons tout à l'heure en ligne avec le professeur Léon Tshilolo à Kinshasa. Le professeur Tshilolo, pédiatre hématologue, directeur du centre de formation et de recherche du centre hospitalier mère-enfant Mongkolé, président du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale, le REDAC. Lutter contre la malnutrition chronique. En fin d'émission, on va donner la parole à Assia Sidibé, qui dirige le secrétariat d'Unit Life, initiative des Nations Unies, qui font le lien entre les donateurs et les ONG pour financer des initiatives de terrain.
Priorité santé sur RFI.
Alors un message clé à agir au plus tôt contre la maladie quand on parle de la drépanocytose, docteur Hassan Yakaté, c'est essentiel d'être informé au plus tôt, ça veut dire informer les parents bien sûr. Si on parle de la situation en France, qu'est-ce que c'est la règle aujourd'hui en termes de dépistage ?
Alors merci pour cette question. Donc en France, on a la chance de pouvoir bénéficier du dépistage néonatal, c'est-à-dire que depuis 2000, on a la possibilité pour les enfants qui naissent dans une maternité au troisième jour de proposer le dépistage de la drépanocytose. La particularité en France, c'est que sur les DOM-TOM, c'est proposé à tous les enfants, alors que en métropole, pour l'instant, on reste sur un ciblage en fonction de l'origine géographique des parents. C'est-à-dire, il faudrait que les parents soient originaires soit de l'Afrique intertropicale, soit du pourtour méditerranéen, soit de la région arabo-indienne, et puis ensuite les Caraïbes ou autres.
Ça vaut aussi pour les couples mixtes, j'imagine.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un parent originaire d'une de ces zones à risque pour qu'on puisse proposer le dépistage de la drépanocytose à l'enfant. Et il y a un travail qui est mené depuis plusieurs années, notamment par plusieurs associations et les médecins des centres de référence pour qu'il y ait une généralisation sur l'ensemble du territoire de ce dépistage et qu'il ne soit plus fait sur des critères d'origine géographique des parents.
Ça veut dire que si on se concentre sur ces critères géographiques ou ethniques, on risque de passer à côté de nombreux cas ?
On peut passer, en gros, on estime que plus d'un tiers des enfants ne bénéficieraient pas de ce dépistage. Et il y a une enquête qui a été faite il y a 3-4 ans où effectivement il s'est avéré que des enfants parce qu'ils n'ont pas été ciblés, ont échappé au dépistage néonatal alors qu'ils étaient malades.
Alors cette émission, elle se construit avec les questions de nos auditeurs. Docteur Nyakate, Mélissa du Burkina Faso a posté ce message sur la page Facebook de l'émission. Ma petite sœur est SC. Alors justement, pour les non-initiés, il va y avoir toutes ces lettres qui vont se décliner. On va bien sûr expliquer ce que ça veut dire. Ma petite sœur est SC, moi je suis AC, j'aimerais savoir si c'est seulement la population noire, on y revient, que la drépanocytose touche. Non.
Alors, il y a plusieurs questions. La première question, c'est qui est touché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être la drépanocytose. En fait, vous avez des mutations qui sont apparues sur le continent africain et une mutation qui est apparue sur la péninsule arabo-indienne. Donc, vous avez effectivement une forte population, on va dire trois quarts qui est à peu près qui a la peau noire et un quart qui a la peau blanche dans les patients. Donc le trait S, on le retrouve sur l'Afrique, sur ensuite par le biais de l'esclavage, les Bantous se sont retrouvés autour du Brésil et les Sénégal, Bénin se sont retrouvés plutôt sur la Caraïbe. Parallèlement à ça, sur la péninsule arabo-indienne, donc vous avez tout le pourtour méditerranéen, vous avez le Maghreb, le Mashrek, l'Inde, le sous-continent indien. Mmh. Et puis, en fait, quand je parle du pourtour méditerranéen, on remonte, on part du Maghreb et on remonte jusqu'en Europe du Sud, c'est-à-dire Italie, Grèce, Turquie, etc. Donc, tout le monde peut être touché par cette maladie, pas que les personnes qui ont la peau noire.
Alors, pour les non-initiés, hein, donc, on va voir l'illustration avec les questions des auditeurs tout à l'heure, docteur Niakate. On va essayer vraiment d'être clair pour comprendre cette transmission des gènes mutés, porteurs ou non de cette hémoglobine, on va dire, anormale. Hein, j'essaie de m'y retrouver. On jongle un petit peu avec les lettres, également avec les notions homozygote, hétérozygote. Est-ce qu'on peut expliquer ?
Effectivement, c'est compliqué. Donc, en gros, vous imaginez, vous prenez 10 personnes dans la rue. Au hasard, vous faites une prise de sang pour analyser leur globule rouge, d'accord ? Le globule rouge, c'est comme un petit ballon de baudruche que vous avez rempli avec de l'eau, avec du sable, avec de l'air. Et donc, ce qu'on va analyser quand on va rechercher l'hémoglobine, c'est le liquide qu'on a à l'intérieur du globule rouge. Quelqu'un qui est en bonne santé fabrique essentiellement de l'hémoglobine A. Mmh. C'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui est le plus fréquent, c'est l'hémoglobine adulte. Mmh. Donc, ça signifie qu'en termes d'héritage, il a reçu un gène A de papa associé à un gène A de maman. Mmh. Donc, il est AA. Mmh. Quand il y a une drépanocytose, le cas le plus fréquent, c'est la forme SS. C'est-à-dire que quand on va analyser le globule rouge de la personne qui est malade, on ne va pas retrouver d'hémoglobine A parce qu'elle a été remplacée par une autre qualité d'hémoglobine qui s'appelle l'hémoglobine S. Et ces personnes qui sont malades, en héritage, ont reçu un gène S de papa associé à un gène S de maman. Mmh. L'enfant reçoit toujours deux moitiés d'héritage pour avoir un héritage complet. Mmh. Donc, SS, on est malade. Mmh. AA, c'est la forme classique, on n'est pas malade. Mmh. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle les hétérozygotes ou porteurs sains, qui, eux, ne sont pas malades, mais pour lesquels, en fait, dans l'héritage, c'est mélangé. Un parent a transmis du A et le second parent a transmis du S. On est AS. Et du coup, quand on a une association entre le A et le A va toujours dominer. Mmh. Et du coup, on va avoir plus de 50% d'hémoglobine A et c'est suffisant pour protéger contre la maladie.
Ça veut dire qu'on peut être bien portant AS.
Tout à fait. On est bien portant quand on est AS. Ça, c'est vraiment c'est le préambule. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand on est AS, quand on est porteur sain, on n'est pas malade. Il faut toujours rechercher autre chose quand on a des symptômes de douloureux ou autres. On doit éliminer une autre cause avant d'imputer le S. Parce que le A domine sur le S quand on est porteur sain.
Ça veut dire qu'on peut avoir un petit frère ou une grande sœur drépanocytaire et être soi-même non drépanocytaire.
Tout à fait. Et c'est assez classique d'ailleurs, puisqu'en fait, les parents vont transmettre de façon complètement aléatoire les gènes. Donc, quand on a deux parents AS tous les deux, si par exemple papa donne son A, maman donne son A, l'enfant va être AA. Il ne sera pas malade. Si par contre les deux parents en même temps donnent leur gène S, cet enfant-là sera malade, il aura une drépanocytose. Et puis après, des fois, on peut avoir papa qui donne S, maman qui donne A, et là, l'enfant sera porteur sain.
Le dépistage, c'est quelque chose d'accessible partout sur la planète ?
Alors du coup, ça le devient. Ça le devient. C'est vrai que pendant de nombreuses années, notamment dans les pays du Sud, c'était pas un accès facilité. Mais maintenant, il y a beaucoup de programmes qui sont montés au niveau notamment des principales maternités dans les grandes villes, dans les grandes capitales. Et il y a quand même des programmes de dépistage néonatal qui se mettent en place. Parallèlement à ça, il y a aussi la possibilité pour les. Alors après, tout ça va dépendre un peu des moyens des personnes, mais d'aller se faire dépister dans un laboratoire privé pour connaître son statut de l'hémoglobine.
Alors une petite question Facebook avant de prendre une auditrice en ligne. Franklin, il est infirmier en République centrafricaine. Il vous demande, est-ce qu'on peut prévenir les crises vaso-occlusives à répétition, hein ? C'est ces crises qui font si mal chez une personne drépanocytaire, docteur ?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'à peu près la moitié des crises vaso-occlusives dans la moitié des cas, on retrouve l'étiologie. Donc, les principales causes qui vont être à l'origine d'une crise vaso-occlusive, ça va être tout ce qui va stresser le globule rouge. Moi, j'appelle l'hémoglobine S l'hémoglobine du stress, parce qu'en fait, elle ne supporte pas qu'on manque d'oxygène, c'est-à-dire qu'on monte en altitude à 1500, 2000 mètres, alors qu'on est SS. Elle ne supporte pas les grosses variations de température, c'est-à-dire c'est l'été, on est en vacances sur la plage, et puis on rentre dans la supérette qui est climatisée, on passe de 40 degrés à l'extérieur à 10 degrés à l'intérieur.
Et la clim, c'est pas bien.
Ça, c'est pas bien. Ça, on n'aime pas quand on est SS. Le manque d'oxygène, on en a parlé. Les situations d'acidose, c'est-à-dire que quand on a une drépanocytose, on ne peut pas s'amuser à aller faire le marathon de Paris. Ça, ce n'est pas possible parce qu'on met le corps dans des situations extrêmes qui vont faire que le S, en fait, va se réveiller et va créer des bouchons à l'intérieur des vaisseaux et empêcher l'oxygène d'arriver dans les tissus. Et ça, ça va créer de la douleur.
Et puis aussi, quand on est déshydraté?
Et évidemment, la déshydratation.
Alors, des témoignages tout de suite, la parole aux auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Pas très loin des studios de RFI, vous êtes en ligne de Paris. Bintou, bonjour.
Oui, bonjour, Caroline Paris.
Alors, vous avez une question sur certains symptômes que vous présentez, des douleurs, alors que pour les médecins, vous n'êtes pas malade, c'est bien ça?
Oui, comme je viens de le dire, que les AS ne sont pas malades, sont des porteurs sains. Moi, je suis AS, là, parler de variation de température. Hier, je suis sortie, là, je ne peux même pas me tenir debout, j'ai souffert toute la nuit de douleurs articulaires. Mon mari n'arrêtait pas de venir me donner de l'eau pour m'hydrater. Les changements de température, tout ce qu'il a dit, c'est comme si j'étais SS. Pourtant, je suis AS. Son prédécesseur sur le colis.
Alors, on vous entend mal, Bintou. Peut-être rapprochez-vous du téléphone. Ça veut dire que vous ne comprenez pas pourquoi...
Je suis dans une errance. Je ne vais plus voir les médecins. On dit que je ne suis pas malade, mais à l'hôpital, on m'en donne sous morphine.
Il y a un écho très, très puissant. Est-ce qu'on vous a demandé s'il fallait faire d'autres recherches pour d'autres maladies éventuellement, parce qu'il y a plein d'autres maladies qui atteignent les articulations?
On a cherché depuis ma naissance.
Ouais.
Depuis ma naissance. Je recevais des injections d'extensiline. Je les reçus de toute petite jusqu'à 23 ans. Pour vous dire, on a cherché rien.
Rien. Docteur Hassan Yakaté, sur ce cas de Bintou, qui est en souffrance non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit, parce qu'il n'y a pas de réponse.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors moi, ce que je peux dire déjà, c'est est-ce qu'on est sûr de votre diagnostic? Est-ce que vous êtes réellement AS? Parce qu'il y a des formes de drépanocytose qu'on appelle les S-bêta plus thalassémie, où on peut avoir parfois un petit peu d'hémoglobine A malgré tout qui apparaît. Et donc, il peut y avoir peut-être une erreur de diagnostic. Il faut être sûr que vous avez un taux d'hémoglobine A qui est supérieur à votre taux d'hémoglobine S. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, effectivement, quand on est AS, en théorie, on n'est pas symptomatique. C'est-à-dire que dans 90% des cas, les AS qui se plaignent de douleurs, on trouve toujours une autre cause. Une polyarthrite, un lupus, une maladie inflammatoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir continuer d'explorer. Parce qu'effectivement, vous êtes en souffrance, vous avez des douleurs et il faut comprendre d'où elles viennent.
Et d'autant plus que les enfants de Bintou présentent également des symptômes douloureux. C'est ce que vous avez constaté, notamment votre fils aîné, c'est ça?
Mon second fils aussi, il ne sait pas, il n'a que 5 ans.
Ouais.
En 2017, c'était la première fois qu'il se plaignait de douleurs articulaires. Novembre, je l'ai oublié, novembre 2017.
Docteur Niakaté, excusez-moi. Vous diriez, puisque vous avez conseillé à cette auditrice d'aller consulter, vous lui diriez d'aller vers quel genre de service?
Alors moi, ce que je vous conseillerais, donc déjà, c'est refaire un bilan global avec votre médecin généraliste. Ensuite, dans un second temps, peut-être vous rapprocher d'un service de rhumatologie. Parce que ce que vous décrivez, c'est plutôt des douleurs articulaires. Or, dans la drépanocytose, la localisation articulaire n'est pas la plus fréquente. C'est plutôt vraiment les localisations osseuses au niveau des os longs. Donc ça serait vraiment le premier conseil que j'aurais à vous donner. C'est vraiment vous rapprocher d'un service soit de rhumatologie, soit éventuellement de médecine interne.
Voilà, merci infiniment Bintou et bon courage. Merci beaucoup pour votre appel.
Priorité santé sur RFI.
Direction le Bénin pour retrouver Adnet. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors allez-y s'il vous plaît, le docteur Niakate est à votre écoute.
D'accord. Moi je suis trépanocytaire FS depuis la naissance. En 2016, on m'a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde. Donc, au passé, je n'avais jamais fait de crise vaso-occlusive. Donc, en 2016, j'ai été hospitalisée. En fin de compte, c'est la polyarthrite qui me dérangeait puisque il y avait l'apparition des douleurs au niveau des articulations. Donc, ils ont confondu la crise vaso-occlusive à la polyarthrite. Donc, c'est... Au final, ils ont fait le facteur rhumatoïde pour pouvoir déterminer que je souffrais de la polyarthrite rhumatoïde.
Et vous avez pris un traitement pour cela. Est-ce que ce traitement vous a soulagé?
Oui, je suis sous corticothérapie et je prends un traitement de fond. Au départ, c'était le méthotrexate qui me créait une anémie sévère. Donc, par la suite, en 2019, on a dû changer, on a... remplacé par l'hydroxychloroquine.
Et aujourd'hui, vous n'avez pas de traitement, j'imagine, pour la drépanocytose. Vous poursuivez ce traitement pour la polyarthrite rhumatoïde?
Oui, toujours. Et parce que les douleurs sont toujours présentes.
Et vous avez une question à poser à notre invité?
Oui.
Oui, allez-y.
Oui, j'aimerais savoir si la prise de corticoïdes à longue durée, sur une patiente ayant la drépanocytose et la maladie auto-immune, quelles sont les conséquences à long terme?
Oui, quand on a deux maladies comme ça aussi graves, on va le dire.
Effectivement.
Est-ce qu'il peut y avoir des interactions ou des effets secondaires des médicaments?
Alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, en général, pour les personnes qui souffrent de drépanocytose, il n'est pas recommandé d'utiliser les traitements de corticothérapie par voie générale. Parce que dans ce contexte-là, d'une drépanocytose, ça peut déclencher des crises vaso-occlusives, les corticoïdes. Mais vous, du coup, il faut mettre en balance parce qu'il y a deux maladies qui sont finalement associées. Et donc, le fait que vous soyez sous corticothérapie et que ça améliore votre polyarthrite rhumatoïde sans forcément déclencher de crise vaso-occlusive, on est plutôt dans un équilibre. Donc, moi, je vous encourage, c'est à continuer votre traitement et à continuer surtout votre suivi auprès du médecin qui suit ce traitement.
Excellente journée à Porto Novo, à Adnet. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. Docteur Hassan Niakate, on va vous retrouver avec d'autres questions d'auditeurs juste après une pause musicale avec ce titre, La Voix, le rythme de Ichon dans Priorité Santé avec La Vie.
Il y aura du sommeil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Mais quelle surprise, tu tiens sur le fil. T'es plus sûr de vivre, faut pas que t'angoisse. N'aie pas peur du vide, faut que tu fasses le vide pour courir le risque normal. Si le vent te décourage, si le temps devient court, tu verras des vrais tours de magie. Du soleil dans l'orage, la chaleur qui t'étouffe, la maladie s'essouffle. On y est. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Facile, il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage, il y aura du vent, ce sera trop facile. Ce qu'il faut que tu évites, y'a que toi qui le sais, c'est pas si terrible, ne sois pas si triste, si tu veux que
trop facile.
RFI Priorité Santé, toujours en compagnie du docteur Niakate, médecin au centre de la drépanocytose pédiatrique de l'hôpital Trousseau, avec d'autres auditeurs en ligne. On part pour le Togo tout de suite, pour Cara, avec en ligne Isidore. Isidore, bonjour.
Ouais, bonjour madame.
Alors, rapprochez-vous du téléphone, vous êtes un petit peu trop loin de nous, Isidore. Hein. La question que vous allez nous poser, ça concerne, si je pense bien, la santé de votre sœur, c'est ça?
Oui, la santé de ma petite sœur, exactement.
Alors, rapprochez-vous du téléphone parce que vous êtes trop loin et expliquez-nous.
Ouais, bon, au fait, ma petite sœur, depuis la naissance, elle souffre de la drépanocytose.
Oui.
Elle est
Oui.
Et tout ce qu'on a pu faire comme traitement à l'hôpital, bon, peut-être on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration, mais il y en a, mais à tout moment, elle souffre, elle fait beaucoup de crises.
Mmh.
Et quand elle fait ses crises, ça ne la permet pas tellement de vivre à l'aise.
Mmh.
C'est-à-dire, elle se tord à tout moment de douleur. Quand elle fait des crises, là, elle ne fait que pleurer. Elle a mal à ses jambes et surtout aux genoux.
Mmh.
Hein, tout récemment, même, on nous avait parlé d'une infection osseuse qu'il avait conduit, mais on lui avait hospitalisé pendant plus de 3 à 4 mois à l'hôpital.
Oui.
Et ça n'a pas été facile. Elle s'est en sortie, mais un peu paralysée. Actuellement, elle ne marche qu'avec les cannes.
Alors, des cannes pour marcher, des grosses crises, des grosses douleurs. Est-ce que votre sœur... Est-ce que votre sœur Isidore, elle prend des médicaments au long cours ou est-ce qu'elle prend juste des médicaments quand elle a ses grosses crises?
Elle prend... C'est ce que les médecins... le médecin traitant lui donne qu'elle prend. Bon, souvent, qu'elle prend, ça n'a pas tellement des effets comme ça. Hein.
Mais elle le prend tous les jours ou elle le prend que quand elle va à l'hôpital?
C'est quand elle va à l'hôpital. Il y a aussi quelques médicaments qui sont avec elle et elle prend ça souvent.
Est-ce qu'on lui a aussi donné des conseils pour la vie de tous les jours, pour par exemple, s'il fait plus froid à certaines saisons, se couvrir un petit peu, boire beaucoup et bien bien se reposer quand elle est fatiguée? On lui a donné tous ces conseils?
Oui, ben effectivement, elle se repose sérieusement, elle se repose, elle boit beaucoup d'eau. Et si elle prend ses potions, on lui a donné les conseils. Et surtout que nous sommes au nord et il y a l'Harmattan. Donc, il fait tellement frais. Elle essaie de se protéger comme elle peut avec les habits, les pullovers et tout ça.
Il y a des changements de température. Docteur Hassan Niakate, on entend bien cette jeune sœur d'Isidore qui souffre beaucoup, ses douleurs atroces. Mm. Pour soulager, quand on est face à ce genre de situation, on fait quoi?
Alors, en fait, la douleur, c'est des traitements vraiment ponctuels. C'est-à-dire que dès que la douleur démarre, il faut commencer les traitements antalgiques. Alors, on peut commencer par la base, hein, c'est-à-dire du paracétamol.
Mm-hmm.
Et puis après, on peut monter sur d'autres associations, notamment tramadol dérivé de la morphine. Et puis vraiment, dans des cas très, très sévères, à ce moment-là, mais c'est plutôt en milieu hospitalier, vraiment la morphine, soit par la bouche, soit en intraveineux. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut que vous compreniez, monsieur, c'est que la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Donc votre sœur sera toute sa vie malade. On peut atténuer les symptômes, mais on ne peut pas guérir la maladie. Ça, c'est vraiment important. Et donc, il ne faut pas se décourager sur le suivi. Il faut vraiment continuer à faire ce suivi-là pour que, justement, elle ait le moins de complications possibles. Ça, c'est vraiment indispensable. On ne se décourage pas sur le suivi parce que la maladie, en fait, elle va la garder toute sa vie. Et on peut juste atténuer les symptômes, mais on ne peut pas la guérir complètement dans ce contexte-là.
Une infection osseuse, marcher avec des cannes, c'est quelque chose qui arrive aussi quand on a des crises qui sont graves et qui se prolongent.
Alors, on sait que les personnes qui ont la drépanocytose ont une fragilité à certaines catégories de microbes. Et c'est vrai que, assez fréquemment, par rapport à la population générale, ils vont faire plus facilement des infections osseuses, notamment à salmonelle. Et donc, effectivement, ça demande des traitements spécifiques. Et parfois, on est obligé même de faire des interventions chirurgicales pour pouvoir extraire et nettoyer ce microbe qui vient se loger dans l'os.
En tout cas, bon courage à toute la famille, surtout bon courage à votre sœur Isidore. On part pour le Cameroun, Bafoussam, où l'on retrouve Diane. Diane, bonjour.
Bonjour madame, merci de m'avoir contactée.
Alors, votre question concerne votre enfant, Diane, allez-y.
Oui, c'est au sujet de mon fils qui a 8 ans. Mmh. Il a été déclaré drépanocytaire alors qu'il est AS. Donc, moi, sa maman, je suis AA. Et son père, il est AS. Mmh. Il a d'autres enfants qui sont AS aussi. Mmh. Mais seulement celui de 8 ans qui a été déclaré drépanocytaire par son hématologue mmh. a un taux d'hémoglobine régulier qui est à 6,5. Donc, il a tout le temps des douleurs abdominales et des maux de tête, des douleurs abdominales au niveau de la rate. Mmh. Et c'est très douloureux parfois au toucher. Mmh. Donc, l'hématologue nous a prescrit un traitement du Tanacan qui prend un comprimé par jour. Et c'est vrai qu'il fait toujours des crises. Et depuis qu'il prend ses comprimés, je constate qu'il a aussi beaucoup pris du poids, donc 5 kilos de plus. Je ne sais pas si le médicament en est la cause. Bon, mais mon inquiétude, c'est au niveau dont je ne comprends pas comment d'autres enfants qui sont AS mmh. ne sont pas malades. Lui, son hémoglobine A est de 55,7% et le S est de 37,4%. Mais on déclare quand même qu'il est drépanocytaire. Ça m'inquiète, je ne sais pas comment gérer ça quand il fait des crises. C'est vrai qu'il ne les fait pas régulièrement, mais il les fait quand même. Mmh. C'est inquiétant, je me demande de quoi sera fait demain. Mmh. Parce qu'ici, moi j'ai vu beaucoup d'enfants drépanocytaires en mourir et mmh. même des adultes en mourir, mmh. donc je mmh. suis très inquiète.
On comprend tout à fait votre inquiétude, Yann. En même temps, on ne va pas pouvoir vous donner toutes les réponses en une minute au téléphone, mais j'ai observé le docteur Niakate qui notait hein, toutes ces références, tous ces chiffres que vous donniez. Peut-être que vous pouvez un petit peu éclairer dans un premier temps cette maman.
Alors effectivement, déjà, il faut être sûr que vous êtes vraiment AA et que vous n'êtes pas porteuse d'un trait thalassémique, Madame Diane. Ça, c'est le premier point. Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, il peut y avoir des formes de drépanocytose qu'on appelle les formes S-bêta+, et dans lesquelles, en plus du S, il y a quand même un petit peu d'hémoglobine A. Alors, vous pouvez me redonner les chiffres d'hémoglobine A et d'hémoglobine S, s'il vous plaît?
L'hémoglobine A est de 55,7%.
Oui. Donc du coup, là, a priori, il est AS, puisqu'on a un taux d'hémoglobine A qui est supérieur à l'AS. Par contre, il fait de l'anémie chronique, et donc ça, c'est important de refaire les bilans pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est si anémié.
On a fait aussi l'examen, le G6PD.
Oui.
Qui donc, était bon.
Donc et il était normal?
Oui, l'examen était très normal.
D'accord. Donc la première chose, ce serait de dire à Diane d'aller faire un examen elle-même.
Éventuellement, mais là, du coup, avec un taux d'hémoglobine A supérieur à 50%, a priori, on ne va pas s'orienter sur une S-bêta+. Hein. Donc là, votre enfant, il est AS, effectivement, de par ce que vous me déclarez. Et donc, il faut trouver une autre cause à ces douleurs que la drépanocytose. Après, moi, ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi est-ce qu'il a un taux d'hémoglobine aussi bas. Donc, il faut vraiment refaire le point avec votre hématologue pour comprendre, en fait, d'où vient cette anémie chronique chez votre enfant.
Vous voyez un spécialiste de la santé du sang, un hématologue, Diane?
Oui, madame. Mmh. Il consulte après chaque 3 mois.
Tous les 3 mois, donc un suivi régulier. D'accord, bah oui, donc ce conseil, c'est de retourner en consultation et puis essayer de le soulager au maximum. On vous remercie beaucoup pour votre question, Diane. Une autre auditrice, c'est Fanta Conakry. Fanta, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors,
bonjour,
racontez-nous, quelle est la question que vous souhaitez poser à notre invité?
Mais moi, je suis drépanocytaire de type AS. Mmh. Je l'ai su il y a 2 ans. Mmh. Le HB est de 58%. Et le HB est plutôt à 58%. Mmh. HBS, 39%. Donc, en fait, moi, au début, mon médecin qui me suivait à l'époque pensait que c'était un rhumatisme. Donc, je ne comprends pas pourquoi il a eu à se tromper. Au lieu de me dire que c'était carrément de la drépanocytose.
Parce que vous avez des douleurs, c'est ça?
Oui, tout le temps. Tout le temps. À l'époque, j'en avais vraiment beaucoup.
Mais votre médecin ne s'est peut-être pas trompé? Peut-être que c'est bien un rhumatisme et pas la drépanocytose?
Mais après plusieurs examens approfondis, ils m'ont fait savoir que le profil est compatible avec un statut
hétérozygote.
Hétérozygote, AS.
Oui, c'est ça.
Donc, du coup, voilà, je prends des antalgiques, du neurocobal et du paracétamol par moment. Mais moi, en fait, mon souci, c'est que je ne fais pas de suivi. Parce que quand j'ai des crises, je prends des médicaments. Mais quand je n'en ai pas, je ne prends pas du tout.
Docteur Hassania Kate, sur la question de cette auditrice, les médecins lui ont dit qu'elle était AS, mais par rapport à tout ce que vous nous avez dit depuis le début de l'émission, si je vous suis bien, il n'y a pas forcément de lien.
Mais non. En fait, comme je l'ai dit au début, les porteurs sains ne sont pas malades. Les hétérozygotes AS ne sont pas des personnes malades. Vous êtes juste porteur du gène, c'est-à-dire vous avez un risque peut-être de le transmettre à vos enfants, mais vous-même, vous n'êtes pas malade. Pour être malade, pour avoir une drépanocytose, il faut avoir soit deux copies du gène S, SS, et là, il n'y a pas le A qui protège, soit S associé à une autre mutation, SC par exemple, comme le monsieur de tout à l'heure, ou SE ou S-thalassémie. Là, on a une drépanocytose, là, on fait des crises douloureuses, là, on a une sensibilité à la déshydratation, au manque d'oxygène, etc. Quand on est porteur sain, on ne rentre pas dans cette catégorie. Par contre, on a le droit d'être porteur sain et d'avoir un rhumatisme associé, d'avoir de l'arthrose, par exemple l'arthrose cervicale, dès l'âge de 25-30 ans, on fait de l'arthrose cervicale. Donc, il faut vraiment distinguer les deux choses. Une douleur ne signifie pas une drépanocytose. Et le fait d'être porteur sain, ça ne justifie pas d'avoir des douleurs, notamment des douleurs articulaires. Sur les douleurs articulaires, moi, j'engage les gens à faire le point avec leur médecin traitant et voir un rhumatologue.
Voilà, Fanta, pour cette réponse. On vous remercie beaucoup. Un petit point avant de rejoindre la République démocratique du Congo. On a parlé du dépistage précoce pour des antibiothérapies et un carnet vaccinal parfaitement à jour. Il y a aussi des supplémentations. On parle de l'acide folique. Ça sert à quoi?
Alors, en fait, l'acide folique, c'est une vitamine qui aide à régénérer les cellules, à refabriquer des cellules. Or, comme je l'ai dit au début, dans la drépanocytose, on a une anémie chronique, une anémie hémolytique, c'est-à-dire qu'on a des globules rouges qui ont une durée de vie qui est plus courte que la normale. Donc, le fait de donner de l'acide folique, ça va aider la moelle. La moelle, en fait, c'est l'usine de fabrication des globules rouges. Ça va l'aider à refabriquer plus vite des nouveaux globules rouges qui vont recirculer dans le sang.
Et on part tout de suite pour la RDC.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Pour vous retrouver, professeur Léon Tshilolo, bonjour.
Madame Caroline Paré.
Ravie d'être en ligne avec vous, pédiatre hématologue, directeur du centre de formation et de recherche du centre hospitalier Mère-Enfant-Moncolé à Kinshasa. Avec le réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale que vous présidez, qui va tenir un symposium virtuel, vous ne baissez pas les bras malgré la pandémie et tous les blocages que ça peut entraîner. Est-ce que vous avez justement un regard par rapport à ce que la crise sanitaire actuelle a changé un petit peu pour votre activité? Est-ce que vous avez pu finalement, professeur Tshilolo, continuer à travailler normalement?
Mais oui, cette crise a provoqué des arrêts dans plusieurs activités, même dans le suivi des sujets drépanocytaires. Nous avions, depuis la présence de cette pandémie, réduit la fréquence de consultation de nos patients drépanocytaires et nous avons en plus utilisé un outil supplémentaire, c'est le téléphone et la télémédecine pour rester en contact avec les familles. Cette pandémie a eu un impact aussi sur ces malades parce que ce sont des sujets qui sont vulnérables à la COVID-19. Et donc, on a pris des mesures. On a confectionné des masques qu'on a donnés à tous nos patients drépanocytaires qui devaient porter lorsqu'ils étaient dans des communautés, mais ils devaient les enlever lorsqu'ils étaient seuls dans la maison. On leur a dit de respecter les distanciations sociales et on leur a dit de continuer à prendre tous les médicaments, y compris l'hydroxyurée.
Alors, ce médicament qui est très important, supplémentation en acide folique, on l'a évoqué il y a quelques instants avec votre consoeur, le docteur Niakate, le repos, les bonnes habitudes. À côté de la prise en charge, à vos yeux, professeur Tshilolo, qu'est-ce qui, ces dernières années, a permis d'améliorer la prise en charge, s'il y a amélioration d'ailleurs, des patients drépanocytaires?
Eh bien, d'abord, c'est l'implication un peu de tout le monde. Cette maladie, c'est une maladie qui ne concerne pas que les pays où il y a une prévalence élevée, comme on peut le noter. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir au cours du congrès du REDAC. C'est une maladie qui concerne le monde entier maintenant. Mmh. Et cela, grâce à l'implication des chercheurs, des scientifiques, de personnel de santé et tout le monde qui s'est impliqué pour essayer de trouver une réponse pour essayer de répondre aux besoins de ces malades et de réduire la douleur et les souffrances. Ce qui est à la base aussi d'une amélioration, ce sont les publications. Mmh. Chaque semaine, il y a au moins une publication qui sort dans une revue internationale sur la drépanocytose, mais c'est aussi l'implication des autorités. Je citerai par exemple les premières dames de plusieurs pays, en République démocratique du Congo, comme au Congo-Brazzaville, etc., mais aussi les associations des drépanocytaires qui ont joué, qui continuent à jouer un rôle très important dans le plaidoyer. Mmh. Et c'est ça qui a contribué à améliorer la prise en charge de ces patients. Il y a bien sûr tous les aspects techniques, mais nous pourrons évoquer éventuellement plus tard.
Alors, il faut se faire entendre, on l'a bien compris. On a un auditeur, on n'arrive pas à le joindre. Alors, j'aime faire sa porte-parole, c'est Abdoulaye du Niger. Il est drépanocytaire de type SC. Il boit 5 litres d'eau par jour. Il a beaucoup moins de crises depuis qu'il fait du sport. Et il a découvert, en regardant la télé, qu'il existait une greffe de moelle osseuse pour être débarrassé de la maladie. Alors, on comprend, c'est vraiment un espoir immense. Il y a des opérations qui sont faites en France. Et la question d'Abdoulaye, je vous la pose, professeur Tshilolo, est-ce qu'on peut se faire opérer en Afrique?
Eh bien, c'est une question, oui. Dans le Maghreb, il y a l'Algérie et le Maroc qui pratiquent les greffes de moelle, pas seulement pour les sujets drépanocytaires, mais pour d'autres pathologies. Par contre, en Afrique subsaharienne, à ma connaissance, il y a le Nigeria. Le Nigeria, c'est un des premiers pays en Afrique subsaharienne qui a commencé à réaliser la greffe de moelle. Le programme de greffe de moelle est en évolution. Il y a tout un programme qui sera probablement réalisable dans les prochaines années dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, parce que c'est quand même une thérapeutique curative. Il y a deux possibilités pour être totalement débarrassé, entre guillemets, de cette maladie. C'est la greffe de moelle, mais c'est aussi la thérapie génique. Et ces deux possibilités ne sont pas accessibles pour la majorité des patients qui vivent en Afrique subsaharienne.
Alors, un auditeur de chez vous, de Kinshasa, professeur Tshilolo, c'est Christian. Christian, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Alors Christian, vous êtes le père de 3 enfants. Racontez-nous ce qui vous amène, parce que c'est un point très important, parfois tabou. On a parfois du mal à en parler, mais c'est essentiel aussi d'évoquer tous les symptômes de la drépanocytose. Allez-y.
Oui, surtout avec cette histoire de marginalisation de personnes vivant avec la drépanocytose.
Tout à fait.
En fait... Moi, je suis drépano SS, j'ai 36 ans maintenant, je suis marié, père de 3 enfants, mais qui sont en bonne santé, ils sont... Bon, j'ai eu ces réflexes de faire un test électrophorèse avec ma femme avant le mariage, ma femme est AA, et là, durant mon enfance, je souffrais de crises vasoclusives, bon, avec le temps, c'est passé, et là, maintenant, c'est... comment on l'appelle? Je souffre de quoi?
Alors quand on a quand on a préparé, vous avez dit priapisme drépanocytaire. Ça veut dire, hein, je vais décrire parce que c'est pas forcément évident de le dire soi-même. Ça veut dire que c'est une érection qui est prolongée, douloureuse, et en fait ça ne passe pas. Alors c'est pas du tout ni drôle ni justement une chose positive du point de vue de la virilité, parce que c'est quelque chose qui fait mal et qui peut même être dans certains cas préjudiciable pour justement l'avenir sexuel des garçons. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous soucie. Qu'est-ce que vous a dit le médecin, Christian?
Voilà, le médecin m'a dit que c'était des causes drépanocytaires et que la seule solution, c'était une intervention chirurgicale, le shunt, et qu'on pouvait le faire qu'à l'Europe. Alors, je me demandais, est-ce que ça peut se pratiquer ici? J'aimerais un peu que le professeur Tshilolo puisse me clarifier ça peut se faire ici et si après, je pourrais continuer à avoir une vie sexuelle normale.
Oui, c'est une question importante. Le professeur Tshilolo, spécialisé en pédiatrie, mais je pense qu'il peut tout à fait vous répondre sur cette question. Professeur Tshilolo, ce priapisme drépanocytaire, il peut toucher, c'est le cas de Christian, des adultes, mais aussi des enfants dans certains cas.
Oui, bien sûr, le priapisme, c'est une des complications de la drépanocytose et qui touche aussi les enfants. Les petits-enfants, ils vont se plaindre de douleurs abdominales parce qu'ils ne sauront pas exprimer qu'ils ont une érection douloureuse. L'enfant peut se plaindre de douleurs abdominales et lors des consultations, les médecins qui sont avertis savent qu'il faut abaisser la culotte, vérifier s'il n'y a pas un priapisme. En fait, l'indication chirurgicale, oui, elle advient lorsqu'il y a eu ces épisodes de priapisme répétés. Et pour les réduire, il faut faire ce que M. Christian a dit, un shunt. C'est vrai que c'est une intervention assez spécialisée. Il faut parfois avoir des implants. Et je sais qu'au Sénégal, il y a une équipe qui le fait. Mais en RDC, il y a une équipe d'urologues qui sont en mesure de le faire également. La question que je poserai à Christian, c'est de savoir s'il prend un médicament qu'on appelle hydroxyurée, parce que c'est aussi une des indications lorsqu'on présente des crises fréquentes de priapisme, il faut prendre ce médicament qui permet d'atténuer les fréquences et donc de les réduire.
Christian, est-ce que vous prenez de l'hydroxyurée?
Je prends de l'hydroxyurée chaque jour. J'en manque jamais.
Voilà, et une précision, c'est qu'il faut prendre dans la bonne posologie, parce qu'aujourd'hui, l'hydroxyurée, on la prend jusqu'à la posologie maximale tolérée. Et c'est ça qui permettrait de réduire aussi ces crises. En dehors de cela, bon, il y a des médicaments que l'on prend de temps en temps pour réduire ces crises. Est-ce qu'on prend votre question aussi concernant la possibilité d'avoir des enfants? Eh ben là, sincèrement, on ne peut pas vous rassurer que vous pourriez continuer à avoir des enfants parce que déjà par le fait que avec la drépanocytose, on a parfois des problèmes de spermatogenèse. Et donc là, il faudra vraiment en discuter avec votre urologue qui pourra vous donner des conseils beaucoup plus appropriés pour ce qui concerne vos relations sexuelles.
Et Christian, vous avez déjà 3 beaux enfants.
Oui, j'ai déjà 3 enfants.
Bon. Ben bon courage, Christian. Merci beaucoup, professeur Chilolo. J'ai une dernière question qui est essentielle parce qu'on tout à l'heure, quand Christian a commencé à prendre la parole, il a parlé aussi de la marginalisation des patients. Beaucoup d'idées fausses. On pourrait y consacrer une émission entière. Hein, drépanocytose et tabou, ça pourrait faire une émission. Professeur Chilolo, il y a un message que vous faites passer. Il faut le répéter. La drépanocytose, elle peut être potentiellement transmise par le père ou par la mère et pas simplement par les mamans. Il faut le répéter.
Oui, il faut le répéter continuellement. Malheureusement, cette stigmatisation, cette marginalisation ne concerne pas que les enfants. Les enfants drépanocytaires vont se retrouver dans la rue, ils deviendront les enfants de la rue, ou encore ils deviendront des enfants sorciers. Mais malheureusement, la maman souvent aussi va être en dehors de la vie conjugale, parce qu'on va considérer qu'elle a du mauvais sang et que c'est à cause de ce mauvais sang qu'elle a des enfants drépanocytaires. Généralement, les hommes ne se sentent pas trop impliqués dans cela. C'est pour cela qu'il faut faire des grosses campagnes de sensibilisation et d'éducation de masse. Il faut utiliser les médias et là, vraiment, c'est très bien. Bravo à RFI qui offre cette possibilité à l'antenne de parler de ce problème. Il faudra vraiment que tout le monde sache que c'est une maladie héréditaire transmise par les deux parents.
Merci beaucoup. Merci, professeur Chilolo. On continuera de le faire, justement. Un dernier mot, parce que il faut qu'on prenne un autre sujet tout de suite, docteur Assa Diakaté. Un dernier mot pour les auditeurs, les auditrices. Message de sensibilisation.
Alors moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le professeur Chilolo, je l'en remercie. Et je pense vraiment qu'il y a un énorme travail de sensibilisation et vraiment sensibilisation grand public, tout public. Il faut qu'à toutes les étapes, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au moment de la vie étudiante, que ce soit dans la vie professionnelle, mais vraiment trouver toutes les approches possibles pour que les gens soient sensibilisés et qu'il y ait une question autour du dépistage, que les gens en fait aient l'information de se dire bah, il faut que je fasse une étude de l'hémoglobine, je ne connais pas mon statut, quelle que soit l'origine ethnique des personnes. Donc vraiment travailler sur le dépistage et la sensibilisation.
Message aussi à faire passer aux étudiants en médecine. Merci beaucoup, docteur Assa Diakaté, d'avoir répondu à notre invitation.
RFI.
Promouvoir la lutte contre la malnutrition chronique, ambition d'Unit Life. Pour en parler avec nous, on retrouve la directrice du secrétariat de cette structure, Assia Sidibé. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors si vous le voulez bien, Assia, expliquez-nous le lien entre Unit Life et les Nations Unies dans cette optique précise de lutte contre la malnutrition.
Bien sûr. Unit Life est une initiative créée par les Nations Unies. Elle a été lancée en 2020 et notre objectif est de faire connaître la malnutrition chronique et de mobiliser des financements pour lutter contre cette dernière.
Alors, trouver des nouvelles ressources en lançant, par exemple, des campagnes de communication pour une meilleure visibilité, ça consiste en quoi ?
Exactement, ça consiste à, si vous voulez, travailler avec le secteur privé africain, présent dans les villes africaines, pour nous associer donc à ces acteurs locaux afin d'utiliser leur réseau, les médias, notamment la radio, les réseaux sociaux, pour sensibiliser à cette maladie et diffuser de bonnes pratiques en matière de nutrition.
Alors, maladie avec toutes les conséquences induites par la malnutrition chronique, mieux se nourrir, évaluation justement quand on voit des enfants, les retards de croissance. Il s'agit bien sûr de soutenir l'avenir de tous ces enfants. On peut dire en quelque sorte que vous servez de relais entre les acteurs de terrain, les ONG et les donateurs. Est-ce que vous avez des moyens de vérifier justement la bonne utilisation de ces ressources financières ?
Oui, bien sûr. Alors, nous travaillons vraiment main en main avec les acteurs de terrain, c'est réellement un partenariat pour permettre de mettre en place des projets qui vont être innovants et qui vont avoir un impact pour résoudre la malnutrition chronique. Donc nous vérifions bien sûr que les fonds arrivent aux populations. Et d'ailleurs, nous travaillons avec les gouvernements, donc les ONG également avec lesquelles nous travaillons ont des accords avec les gouvernements et s'assurent donc que le travail est fait de sorte à ce que les populations puissent avoir accès, bien sûr, à toutes ces actions.
Vous ciblez des régions précises en ce moment, en début d'année 2021. Vous avez des sites particuliers ?
Oui, en début d'année 2021, on travaille au Niger. On cible particulièrement le Sahel parce que le Sahel est une région extrêmement touchée par la malnutrition chronique. Au Niger, par exemple, nous travaillons avec une ONG. Avec laquelle on fait de la sensibilisation à la nutrition, donc à travers notamment des cercles communautaires impliquant des femmes, des hommes et des leaders communautaires.
Alors un appui sur la communauté, bien sûr essentiel dans ces régions. On vous remercie infiniment, Assia Sidibé. Merci pour toutes ces réponses et nos excuses pour la qualité technique, comme on dit, indépendante de notre volonté. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui fabrique, réalise votre émission. C'est tout. Samaki, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Grand merci à Laurence Nau. Les lignes téléphoniques lui ont fait aujourd'hui s'arracher les cheveux, on la comprend. On se retrouve demain dès 9h10 temps universel.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Autour de la question.